Bonjour, ici Marc, bienvenue au 64e épisode du bonheurpourtous.info, le podcast où je partage avec vous les meilleures informations que je trouve pour reprendre contact avec notre vraie nature, le bonheur. Aujourd'hui, la suite de la troisième partie du livre de Larkin Rose, La superstition la plus dangereuse. Les effets du mythe sur les maîtres. Le droit divin de l'homme politique. Dans ce pays, au sommet de la bande de malfaiteurs appelée « gouvernement », se trouvent les députés et sénateurs, les présidents et les juges. Dans d'autres pays, les dirigeants sont connus sous d'autres noms tels que roi, empereur ou membre du parlement. Bien qu'ils soient au sommet de l'organisation autoritaire, ils ne sont pas perçus comme l'autorité elle-même, comme les rois l'étaient autrefois. On imagine toujours qu'ils agissent au nom de quelque chose d'autre qu'eux-mêmes. Une entité abstraite appelée gouvernement. En raison de la croyance en l'autorité, ils sont supposés avoir le droit de faire des choses au nom du gouvernement qu'aucun d'entre eux n'a le droit de faire en tant qu'individu. La légitimité de leurs actions est mesurée non pas par ce qu'ils font, mais par la manière dont ils le font. Aux yeux de la plupart des gens, les actions que les hommes politiques entreprennent en leur qualité officielle et les ordres qu'ils donnent en suivant les rituels politiques acceptés sont jugés à l'aune d'une norme très différente de celle qui s'applique à leurs actions en tant que particuliers. Si un député pénètre par effraction dans la maison de son voisin et prend 1 000 $, il est considéré comme un criminel. En revanche, si avec ses collègues politiciens, il impose une taxe, en exigeant ces mêmes 1 000 $ du même voisin, il est considéré comme légitime. Ce qui aurait été un vol à main armée serait alors considéré par presque tout le monde comme une taxe légitime. Non seulement le membre du Congrès ne serait pas considéré comme un escroc, mais tous les fraudeurs qui résisteraient à ces demandes d'extorsion seraient considérés comme des criminels. Mais la croyance en l'autorité ne change pas seulement la façon dont les législateurs sont perçus par les masses, elle change aussi la façon dont les législateurs se perçoivent eux-mêmes. Il devrait être évident que si une personne devient convaincue qu'elle a le droit moral de régner sur les autres, cette croyance aura un effet significatif sur son comportement. S'il croit qu'il a le droit d'exiger une partie des revenus de chacun, sous peine de sanction, à condition qu'il le fasse selon les procédures légales acceptées, il le fera presque à coup sûr. S'il est convaincu qu'il a le droit de contrôler de manière coercitive les décisions de ses voisins, qu'il est moral et légitime pour lui de le faire, il le fera presque certainement. Et du moins au début, il peut même le faire avec les meilleures intentions du monde. Un simple exercice mental permet de comprendre comment et pourquoi les hommes politiques agissent comme ils le font. Pensez à ce que vous feriez si vous étiez roi du monde. Si vous étiez aux commandes, comment amélioreriez-vous les choses? Réfléchissez bien à la question avant de lire la suite. Lorsqu'on demande ce qu'ils feraient s'ils étaient responsables, presque personne ne répond « je laisserai les gens tranquilles ». Au contraire, la plupart des gens commencent à imaginer comment ils pourraient utiliser leur capacité à contrôler les gens comme un outil pour le bien, pour l'amélioration de l'humanité. Si l'on part du principe qu'un tel contrôle peut être légitime et juste, les possibilités sont presque infinies. On pourrait rendre le pays plus sain en obligeant les gens à manger des aliments plus nutritifs et à faire de l'exercice régulièrement. On pourrait aider les pauvres en obligeant les riches à leur donner de l'argent. On pourrait rendre les gens plus protégés en les obligeant à payer pour un système de défense solide. On pourrait rendre les choses plus équitables et la société plus compatissante en forçant les gens à se comporter comme ils le devraient. Cependant, si l'on peut imaginer de nombreux avantages pour la société, si seulement le pouvoir du gouvernement était utilisé pour le bien, le potentiel de tyrannie et d'oppression, en fait l'inévitabilité de la tyrannie et de l'oppression, est tout aussi facile à imaginer. Une fois que quelqu'un croit avoir le droit de contrôler les autres, il est peu probable qu'il choisisse de ne pas utiliser ce pouvoir. Et, quelles que soient les nobles intentions qu'il ait pu avoir au départ, il finira par utiliser la violence et la menace de violence pour imposer sa volonté aux autres. Même des causes apparemment bienveillantes, comme « donner aux pauvres », exigent d'abord du gouvernement qu'il prenne de force la richesse d'autrui. Une fois que quelqu'un, aussi vertueux et bien intentionné soit-il, a accepté l'idée que l'agression légale est légitime, et une fois qu'il s'est vu confier les rênes du pouvoir, et avec elle le droit supposé de gouverner, les chances que cette personne choisisse de ne pas contrôler ses voisins par la force sont quasiment nulles. Le degré de coercition et de violence qu'il inflige aux autres peut varier, mais il deviendra un tyran à un degré ou à un autre, parce qu'une fois que quelqu'un croit vraiment qu'il a le droit de gouverner, même si ce n'est que de manière limitée par la Constitution, il ne considérera pas les autres ou ne traitera pas les autres comme des égaux. Il les considérera et les traitera comme des sujets. Et ça, c'est si la personne a commencé avec de bonnes intentions. Beaucoup de ceux qui cherchent à obtenir une haute fonction le font d'emblée pour des raisons purement égoïstes, parce qu'ils désirent la richesse et le pouvoir pour eux-mêmes et qu'ils aiment dominer les autres. Bien entendu, l'acquisition d'une position d'autorité est, pour ces personnes, un moyen d'obtenir une énorme quantité de pouvoir qu'elles n'auraient pas autrement. Les exemples dans le monde entier au cours de l'histoire, de mégalomanes utilisant la façade de l'autorité pour commettre des atrocités odieuses, sont si courants et si connus qu'il n'est pas nécessaire de les mentionner. Le fait de placer des personnes malveillantes à des postes d'autorité, Staline, Lénine, Mao, Hitler, Mussolini, Pol Pot, etc., a entraîné le vol, l'agression, le harcèlement, le terrorisme, la torture et le meurtre pur et simple d'un nombre presque incompréhensible d'êtres humains. C'est tellement évident qu'il est presque stupide de le dire. Donner le pouvoir aux méchants constitue un danger pour l'humanité. Mais donner le pouvoir à des gens bien, des gens qui, au moins dans un premier temps, ont l'intention d'utiliser leur pouvoir pour le bien, peut être tout aussi dangereux, car pour qu'une personne croie qu'elle a le droit de gouverner, il faut nécessairement qu'elle croie qu'elle est exempte de la moralité humaine de base. Lorsque quelqu'un s'imagine être un législateur légitime, il essaiera d'utiliser la force de la loi pour contrôler ses voisins et ne ressentira aucune culpabilité en le faisant. Ironiquement, bien que les législateurs soient au sommet de la hiérarchie autoritaire, même eux n'acceptent pas la responsabilité personnelle de ce que fait le gouvernement. Même eux parlent comme si la loi était autre chose que les ordres qu'ils donnent. Par exemple, il est très improbable qu'un homme politique se sente justifié d'engager des voyous armés pour envahir la maison de son voisin, l'emmener et le mettre en cage pour le soi-disant péché de fumer du cannabis. Pourtant, c'est exactement ce que de nombreux hommes politiques ont préconisé dans le cadre de la législation anti-drogue. Ils semblent n'éprouver aucune honte ou culpabilité quant au fait que leur législation a eu pour conséquence que des millions de personnes non violentes ont été arrachées de force à leurs amis et à leurs familles et ont dû vivre dans des cages pendant des années, parfois pour le reste de leur vie. Lorsqu'ils parlent des actes de violence dont ils sont directement responsables, et les lois sur les stupéfiants n'en sont qu'un exemple, les législateurs utilisent des termes tels que « la loi », comme s'ils étaient eux-mêmes de simples spectateurs et que le pays ou la nation ou le peuple étaient ceux qui faisaient que cette violence se produisait. En effet, le niveau de détachement psychologique des politiciens par rapport à ce qu'ils ont personnellement et directement causé par leur loi frise la folie. Ils commandent des armées de collecteurs d'impôts pour confisquer de force la richesse gagnée par des centaines de millions de personnes. Ils promulguent une loi intrusive après l'autre, utilisant des menaces de violence pour contrôler tous les aspects de la vie de millions de personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées et dont ils ne savent rien. Et, après avoir été directement responsables de déclencher de manière habituelle de la violence contre presque toutes les personnes vivant dans un rayon de centaines ou de milliers de kilomètres autour d'eux, ils sont véritablement choqués et offensés si l'une de leurs victimes menace d'utiliser la violence contre eux. Ils considèrent qu'il est méprisable pour un simple sujet de menacer de faire ce qu'eux, les politiciens, font à des millions de personnes chaque jour. En même temps, ils ne semblent même pas remarquer les millions de personnes qui sont emprisonnées, dont les biens sont volés, dont la vie financière est ruinée, dont la liberté et la dignité sont attaquées, qui sont harcelées, attaquées et parfois assassinées par des voyous du gouvernement, en conséquence directe des lois mêmes que ces politiciens ont créées. Lorsque des jeunes hommes et des jeunes femmes meurent par milliers, dans le dernier jeu de guerre mené par les politiciens, ces derniers parlent de « sacrifice pour la liberté », alors qu'il n'en est rien. Les politiciens utilisent même des scènes de soldats dans des cercueils, une conséquence directement attribuable à ce que ces politiciens ont fait, comme propagande, pour montrer au public à quel point ils sont concernés et compatissants. Ceux-là même qui ont envoyé ces jeunes gens tuer ou mourir parlent ensuite de ce qui s'est passé comme s'ils étaient eux-mêmes de simples observateurs, en disant des choses telles que « ils sont morts pour la patrie » et « il y a des victimes dans chaque guerre », comme si la guerre s'était produite d'elle-même. Et, bien sûr, les milliers et les milliers de personnes de l'autre côté, les sujets d'une autre autorité, les citoyens d'un autre pays, qui sont tués dans les guerres menées par les politiciens, sont à peine mentionnés. Il s'agit d'une statistique occasionnelle rapportée dans les journaux télévisés du soir. Et jamais les politiciens n'acceptent la moindre parcelle de responsabilité pour la douleur et la souffrance, mentale et physique, généralisée, à grande échelle et prolongée, que leur propagande guerrière a infligée à des milliers ou à des millions d'êtres humains. Une fois de plus, la profondeur de leur déni et leur évasion totale de la responsabilité personnelle peuvent être constatées dans le fait que, si l'une des victimes des jeux de guerre des politiciens décide d'attaquer la source en ciblant directement ceux qui ont donné l'ordre d'attaquer, tous les politiciens, même ceux qui prétendent être contre la guerre, et toutes les têtes parlantes à la télévision expriment leur choc et leur indignation que quelqu'un puisse faire quelque chose d'aussi méprisable. En effet, aux yeux des législateurs, en raison du pouvoir étonnant du mythe de l'autorité de déformer complètement leur perception de la réalité, lorsqu'ils font des choses qui entraînent la mort de milliers d'innocents, c'est le « coup malheureux de la guerre ». Mais lorsqu'une de leurs victimes tente de riposter à la source, c'est du terrorisme. Il est déjà assez grave que ceux qui ne font qu'obéir aux ordres nient toute responsabilité personnelle pour leurs actions, ce qui est abordé ci-dessous, mais que ceux qui donnent les ordres et les inventent nient toute responsabilité pour ce que leurs ordres ont directement provoqué, c'est de la pure folie. C'est pourtant ce que font toujours les législateurs à tous les niveaux. Qu'il s'agisse du gouvernement fédéral, d'une commune ou d'un conseil municipal, chaque fois qu'un législateur impose une taxe sur quelque chose ou impose une nouvelle restriction légale, les politiciens utilisent la menace de la violence pour contrôler les gens. Mais en raison de leur foi inébranlable dans le mythe de l'autorité, ils ne voient pas que c'est ce qu'ils font et ils n'assument jamais la responsabilité personnelle d'avoir menacé et extorqué leurs voisins. Voilà, c'était l'épisode d'aujourd'hui. Si vous aussi, vous voulez que ce dont on parle ici arrive aux oreilles de plus de monde, parlez-en autour de vous, faites des heureux. Et laissez un commentaire sur iTunes, s'il vous plaît, ça aide les gens à trouver ces informations plus facilement. Sur bonheurpourtous.info, il y a un lien qui vous amène au podcast dans iTunes. À l'épisode prochain, avec la suite de la troisième partie de « La superstition la plus dangereuse », les effets du mythe sur les exécutants.